Vous écoutez
RMC.
RMC.
Quand M6 a vendu le club, personne n'a mis la fenêtre au balcon.
Il n'y a pas grand chose à faire. Se regarder dans une vitre et savoir ce qu'on a bien fait les uns et les autres.
Gilbert Benoît, quand il y a eu le tirage au sort, tu as dit c'est le jackpot pour la France.
Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot.
Ils ont été éliminés dans le premier tour. Bon bah voilà, maintenant continue, ça va, on t'a pardonné.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct sur Afterfoot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Évidemment, nous sommes là dans l'after première radio de France, toujours le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Florent Gautreau. Salut Florent.
Salut à tous.
On vous rappelle le 3216 bien sûr pour nous appeler et le numéro WhatsApp 06 12 424 424 si vous souhaitez nous écrire plutôt que nous appeler. Il y a pas mal d'actu ce soir en plus du match de barrage.
Un grand match.
Et puis notre jeu des 26 qui peut vous faire gagner soit 10 000 euros, soit le fameux pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte de Lego, du trophée, figurez-vous. Si vous voulez vous amuser, je sais pas qui joue encore au Lego.
Non, là non.
Non, moi non plus. Moi,
je déjà, même petit.
Toi, t'étais
pas
plus
de la génération Lego.
T'étais plus mobile.
Mais ouais, pas trop non plus. Ouais. Je pense que j'étais un petit peu trop avancé par rapport aux autres enfants.
Ah d'accord.
Et j'étais déjà ailleurs.
Moi, j'étais beaucoup moins avancé.
Dans une autre dimension.
Totalement Playmobil.
Moi, j'étais Playmobil.
J'ai plein de trucs. J'ai les caravanes.
Non.
Les caravanes.
Je faisais pas.
Le bateau pirate.
Le bateau pirate, évidemment.
Le bateau pirate. Le train.
Moi, j'avais déjà mes petites figurines, mes petits machins de foot et tout, et je me faisais des faux commentaires.
Ce qui est fou, c'est que je me suis éclaté.
Je faisais des matchs et je faisais des faux commentaires de foot dessus et tout. Déjà, je faisais ça à 7 ans.
Je me suis éclaté à les offrir après mes enfants. C'est-à-dire qu'on a fait des scènes dans la chambre et on a mis des étagères, on a monté des étagères exprès pour laisser les trucs monter. Ah ouais. Donc voilà.
Attends, vrai côté Puy du Fou chez.
Ouais, un Puy du Fou Playmobil. Tes enfants ont récupéré tes Playmobil.
Non, on a racheté.
Ah bon, d'accord, parce que je me suis dit.
Non, en revanche, ce qu'ils ont fait marrer, écoute Gilbert, ouais. Cette anecdote Playmobil, c'est quand ils sont tombés dans les boîtes à chaussures chez ma mère avec les Playmo dedans. Mais les vieux Playmo, ils étaient quand même un petit peu moins, des fois un peu moins stylés. Et tu vois, t'as des. Tu te rappelles pas les policiers allemands?
Je t'avoue que là...
Les policiers allemands sur les motos Polizei?
Ah, peut-être.
Ah, bah si. Bah, ça se vendait bien en Alsace.
Ça marche encore ça?
Non, chelou, c'était interdit ça. Les policiers allemands, c'était pas en vente.
Est-ce que les enfants jouent encore aujourd'hui avec ça? Les Lego, ouais, je sais que
sûr.
Oui, mais les Playmobil,
oui, bien sûr. Et tu sais que tu as plein de marques qui font du marketing avec. C'est-à-dire que sur un événement, tu te fais un petit tu peux te faire ta collection Playmo. Par exemple, l'After, pour l'avoir, c'est Playmo After.
Ça me plairait bien. Si j'avais la boîte Playmobil ou la boîte Lego After, là, c'est.
Ouais, mais plutôt Playmobil.
Rien à monter.
Je te signale que dans les Playmobil, ils ont tous une coupe au bol un peu carrée, comment ils font pour toi?
Bah, on va.
Ils enlèvent, non, parce que tu te rappelles quand t'enlevais les cheveux?
Il y avait rien, un trou.
Peut-être que maintenant, il y a.
Super avec un trou dans la tête.
Je pense qu'ils font des choses.
Le Playmobil show, mais il n'existe pas.
Lançons un appel. Si quelqu'un travaille chez Playmobil parmi les auditeurs de l'After,
on veut la boîte.
Ils les font tous avec un sourire, donc il est possible qu'il y ait un que le chauve-souris.
Okay.
Ah, je pensais que tu voulais un Playmobil qui sourit pas.
Pour Daniel?
Pourquoi pour Daniel?
Non, je sais pas, un mec qui boxe, quoi. Un mec qui est énervé.
Bon, bref, en réalité, j'ai pas fini de raconter le jeu. Donc, liste des 26, c'est très simple. Soit vous gagnez 10 000 euros, soit vous gagnez le fameux pack Coupe du Monde que j'ai décrit. C'est très simple, il suffit d'attendre l'alerte que vous connaissez, qui est celle-ci, voilà. Et quand l'alerte retentira, vous enverrez liste par SMS au 732-16 si vous voulez participer. Liste par SMS au 732-16 et ensuite un tirage au sort. Voilà. Alors, Saint-Etienne 10-0-0, on va en parler. Je signale qu'il y avait aussi un match amical aujourd'hui entre le Maroc et le Burundi. Match de prépa à la Coupe du Monde, 5-0 pour les Marocains qui ont rendu officielle d'ailleurs leur liste des 26. On en parlera des listes qui tombent aujourd'hui, liste américaine, liste ghanéenne.
Mais c'est là que je me rends compte à quel point Deschamps a donné sa taux finalement.
Oui, c'est vrai.
Par rapport aux autres.
Il y a une deadline qui est le 31. Donc il y en a qui vont donner leur liste.
Il est vraiment sorti du bois très vite. Ouais. Très, très vite.
Oui, bon après c'est pas le jeu ce soir qui va le faire changer d'avis a priori, puisque c'était quand même un match de flipper, hein, un match avec je pense la peur aux ventes sans doute, parce que zéro tir cadré dans ce match aller de barrage entre
ils auraient pu se dire dès le départ, écoute les gars, on fait 0-0, on donne rendez-vous au match retour.
Écoute, je pense que c'était la tactique des deux coachs, ce que tu dis est pas complètement une blague, parce que j'ai le sentiment que Nice est arrivé dès le début avec comme message rendez-vous vendredi. Et que Saint-Etienne a, je pense, fait un peu plus, en tout cas avait l'intention de faire un petit peu plus, mais qu'il n'en était pas capable. Parce que ce qui m'a le plus marqué ce soir, c'est le déchet technique de cette rencontre. C'était parfois, j'allais dire affligeant, presque, j'ai plus envie de dire triste. C'est quand tu tentes quelque chose, quand tu essayes, que tu as un premier bon décalage, que ça doit se terminer par un centre, et que le centre, il arrive jamais, qu'il part comme un coup de botte dans la tribune. Franchement, c'est terrible. Vraiment, le niveau technique de ce match, c'était catastrophique. Et quand tu parles du bilan avec le zéro frappe cadrée, ben zéro frappe cadrée, mais j'ai l'impression que c'est juste parce qu'ils ne sont pas capables, en vrai. Alors, est-ce que
franchement, c'est très rare. Très rare hein.
Alors après, oui, probablement que la trouille explique un petit peu. Je veux bien, mais vraiment, le déchet, il était terrible. Moi, le seul truc qui m'a plu ce soir, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match à Geoffroy Guichard. Et ça fait du bien parfois de rappeler que c'est un super stade et que moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les stades, c'est l'éclairage. Oui, je sais pas, ça peut peut-être vous sembler complètement absurde de dire ça, mais l'éclairage dans un stade, c'est beau. L'image qui rend à la télé. L'éclairage Geoffroy Guichard, l'image, quand tu regardes un match à Geoffroy Guichard, d'abord les tribunes sont pleines et c'est un atout. Les tribunes sont près du stade. L'image, le grain, c'est très beau. C'est très beau le match Geoffroy Guichard. Voilà, c'est le seul truc qui m'a plu ce soir. Donc je viens de faire deux minutes dessus, j'ai plus rien à dire de la rencontre. Voilà.
Je pense quand même que l'équipe a un criminel plus dans ce 0-0, on va dire programmé, parce que pour moi c'est effectivement presque un truc, c'est pas loin d'être un match arrangé. Je le dis évidemment avec toutes les réserves qui s'y rapportent. C'est Nice qui est quand même une nouvelle fois le plus à blâmer, parce que certes ils ont un peu le vent contre en ce moment avec les histoires avec le match à huis clos au retour, etc. Et on va dire leur saison catastrophique. Mais quand t'es l'équipe de Ligue 1, que tu joues contre l'équipe de Ligue 2 qui elle-même a déjà joué des barrages. D'ailleurs, on a vu beaucoup de fatigue côté stéphanois. Tu dois donner plus, tu dois cadrer des frappes. Moi, j'ai vu à part les touches longues, c'était à peu près la seule façon d'avoir des occasions côté niçois. Je pense que des deux équipes, la plus à blâmer, ça reste encore Nice, qui est l'équipe de Ligue 1, qui doit montrer qu'elle est au-dessus et plus fort. Et ce soir, franchement, voilà, c'est pas le cas.
Cette espèce d'obligation que tu leur colles sur le dos, Flo.
Oui, bien sûr, c'est la Ligue 1.
Ils ont envie de te répondre, mais équipe... Flo, on n'en a rien à se dire. Nous, on joue notre peau et on va voir.
Oui, mais si tu joues ta peau, t'es capable. Moi, je pense que c'est la limite de Puel. T'es capable, dès le match aller, d'aller marquer à Geoffroy Guichard. Faut pas qu'il y ait la Sofiane Diop.
Non, mais ce que je sais pas si ils en sont capables.
Puisque tu parlais des deux effectifs, il y a quand même à Nice, ce qu'on a vu à la finale de la Coupe de France, t'as les moyens de faire mieux que ça. Donc je pense que des deux, à blâmer, je pense quand même que les Niçois techniquement ont un effectif supérieur et qu'ils doivent faire plus.
Alors le retour, ce sera donc sans spectateur,
vendredi soir.
À Nice. Vendredi. Donc il y a peut-être aussi là pour les Verts, c'est-à-dire bon bah, finalement est-ce qu'on va vraiment jouer dans un stade hostile, enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit forcément non plus de mauvaise opération pour Saint-Etienne en vérité.
C'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, à la fin, par exemple, les Verts se mettaient par terre beaucoup. Il y avait sans doute de la vraie fatigue, mais il y avait aussi la volonté de s'arrêter sur ce score. Je pense qu'effectivement, une fois que c'était un peu acté, la deuxième période était encore pire que la première. Hein. J'avais deux trois choses. En revanche, non, c'est vrai
si
que
ça, si ça bouge pas un petit peu plus, l'issue au péno, ouais, ça semble écrit quoi.
C'est possible.
Dans un instant, on aura des supporters des Verts avec nous, mais tout à l'heure, Maxime Chalot qui était là disait, mais en fait, ces barrages, il faut les jouer sur un match. Ça se fait en Angleterre, par exemple.
Je suis absolument d'accord. En fait, le côté aller-retour est censé
sur un match,
augmenter l'attractivité, le côté spectacle, parce que ça fait Coupe d'Europe. Il y a un petit sel. On va d'abord chez l'un, on va d'abord chez l'autre. Donc t'as deux publics, deux ambiances. Mais en fait, plutôt que de donner et d'augmenter le côté spectacle, j'ai l'impression que ça gèle les pieds un peu. Ça fait flipper. Et l'idée, c'est ce que disait Flo au départ, c'est rendez-vous match retour. On a le sentiment que les deux ont ça en tête à chaque fois.
C'est
pour ça qu'au final, le match couperait.
Il y a un autre.
Je pense que là, au moins, on y va.
Tu prends une vie, tu remplis la moitié du stade avec une équipe, comme une sorte de mini-finale.
Tu veux un stade neutre et tout.
Bah, t'es obligé, là.
Tu veux faire comme les Anglais où on tous à Wembley. Alors, tu sais ce qu'ils font, eux. Eux, ils te feraient le barrage d'avance sur toute une semaine. et t'aurais eu ton Saint-Étienne Rodez, ton hop, et puis après ça se termine le dimanche avec la finale. Quoi.
Ouais, il y a
trois matchs dans la semaine.
Il y a deux choses. Match couperé.
Oui, ça serait une fête.
Match sur une seule manche.
La fête des flippés, parce que
Match couperé sur un terrain neutre, je suis d'accord. D'autant plus que en faisant l'aller-retour, tu favorises forcément l'un des deux avec le match retour.
Ouais, d'ailleurs que le retour chez le club de Ligue 1.
Mais c'est pour ça, ce que j'ai expliqué la dernière fois dans l'after, c'est que je trouve que ces barrages sont faits pour protéger la Ligue 1, depuis le départ. Tu fatigues la Ligue 2 avec les pré-barrages, puis après, tu leur mets le match retour à domicile sur le club de Ligue 1, à l'extérieur pour eux. Donc, effectivement, le match couperé à 50 avantages, moi, je réformerais les barrages en général. Le club de Ligue 2 arrive rincé sur le barrage décisif. Donc, il faut un peu plus d'équité, un peu plus de simplicité. Effectivement, le truc en un match, là, je peux te dire que, d'une manière ou d'une autre, on aurait passé une bonne soirée. Avec prolongation, en revanche.
Bon. Là, c'est un contre-exemple, parce que Saint-Etienne a eu plus de récup que Nice, qui a joué la finale de la Coupe de France.
Voilà. C'est vrai.
Dans un instant, on aura Yannis au 32-16, supporter des Verts. Ah, l'alerte! Elle est là.
Déjà?
Bah oui, c'est le top inscription dès maintenant. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner 10 000 euros ou bien le pack Coupe du Monde, eh bien, vous envoyez liste par SMS au 732-16, liste par SMS au 732-16.
Il y a beaucoup de joueurs à prendre.
Il reste 8 joueurs.
Et tout à l'heure, s'il y a un gagnant avec nous, il pourra choisir un des joueurs restants. Et on verra ce qu'il a gagné. Dans un instant, donc, on conclut sur ce match. Ensuite, on ira retrouver Julien Laurence. On est à J-4 de PSG Arsenal, dans toute l'actu à J-4. Plus
GSG. Et ça a chauffé. Eh oui.
Ça a chauffé, c'est-à-dire
Arteta, Lucien Riquet.
Ah.
Ça a chauffé.
Et puis, on parlera aussi de Genesio, qui devient le coach le plus désiré du football français.
Mm-hmm.
Incroyable, cette trajectoire.
C'est Pep. C'est définitivement Pep.
Tout à l'heure. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. On va conclure sur le match Saint-Etienne-Nice avant de passer au reste de l'actu, surtout à la finale Ligue des Champions, puisqu'on est à J-4 de cette grande finale entre le PSG et Arsenal. On a deux supporters des Verts. Alors déjà, on a Thomas qui est ici dans notre studio, qui est de passage dans l'after. Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Et on a Yanis qui est en ligne avec nous. Yanis au 32-16, bonsoir.
Bonsoir, salut les gars.
Yanis, t'étais au stade toi, hein?
Ouais, tout à fait, on sort du stade.
Bon.
Moi je ressors frustré. Alors bon, il y avait un bon état d'esprit, une bonne attitude des joueurs, mais tu vas me dire devant 42 000 personnes à Geoffroy Guichard au départ de l'été, heureusement qu'ils ont envie de se montrer, mais c'était trop peu. Aujourd'hui, on a fait face à un match où il y avait deux équipes de Ligue 2, sincèrement. Techniquement, il y a eu énormément de déchets techniques d'un côté et de l'autre. Franchement, je les ai sentis même rincer les deux équipes. Et comme l'a dit si bien Daniel, franchement, là, tu sens que les deux équipes, ils sont sur la corde raide. Le match retour, je ne sais pas ce qu'il va donner vendredi, mais sincèrement, physiquement, je les ai trouvés extrêmement usés, les deux équipes. Donc, supporters des Verts, on espère qu'il y a un petit miracle vendredi à l'Allianz Arena, Riviera, pardon. Voilà, c'est.
Alliance Arena pour Saint-Etienne, c'est pas tout de suite, si je puis me permettre.
Bon, pour Nice non plus.
Oui, pour Nice non plus. Oui, effectivement.
C'est ça. Donc, non, voilà, les gars, un petit peu mon retour. Ce qui est frustrant, c'est que tu sens que Saint-Etienne, en fait, c'est un 11 de départ. Et à partir des changements 65e, 70e, ça a tout de suite baissé de rythme.
Attention qu'il n'y ait pas de blessés, hein, parce qu'il y a deux qui sont sortis un peu boitillants, là. Faut pas qu'il y ait des blessés pour vendredi, parce que t'as pas un choix de fou, hein.
Et puis, si je veux rajouter, les gars, moi, je me souviens qu'il y a 5-6 ans maintenant, quand Saint-Etienne descend de Ligue 1 à Ligue 2, on a joué quand même avec des Crivelli, Moukoudi et tout ce qui va avec. Là, on sera reçu par Nice dimanche, avec quand même, malgré tout, même s'ils n'ont pas fait un bon match, Mohamed Ali Chou, Sofiane Diop, Mendy derrière.
Et ouais, Wai, qui là n'était pas là,
et en plus,
qui était suspendu.
Vous partez pas
sera au retour,
vendredi, hein, la vérité.
Ah bah c'est clair.
Moi, Yanis, le truc qui me gêne, alors moi je pense qu'effectivement Nice aurait dû montrer plus, et que en gros la stratégie de Puel c'était on tient là parce qu'il nous manque Wai et qu'on est un peu fatigué et on joue tout sur le retour. Ok, on va voir si ça marche. Mais Sainté qui se retrouve empêtré dans ces barrages aussi par rapport à la saison, faut s'y prendre ce recul-là. Bah, Saint-Étienne, ils auraient dû faire beaucoup mieux aussi dans la saison. Donc, tu te retrouves aussi frustré après un match comme ça, comme tu l'as été dans la saison, en te disant que tu devais faire beaucoup mieux avec les moyens que tu as.
Ah ben attention, j'étais aussi frustré de ce dernier match où tu gagnes 5-0 et qu'au final tu t'accroches pas à la deuxième place. Ouais. Sans faire injure à Le Mans, tu dois finir devant Le Mans, tu dois même finir devant 3. T'es un des meilleurs budgets de Ligue 2 et aujourd'hui t'es empêtré
dans. Là-dessus, on est d'accord.
C'est pas possible.
J'ai envie de dire,
non, on voit pas la conclusion trop vite. J'espère que ce sera pas la conclusion de samedi dimanche.
Tu peux retourner, mais tu peux retourner le truc et tant mieux si vous le faites. Mais t'as raison, moi je pense que tu pars de loin, puis l'occasion elle est ratée sur la saison régulière, elle est pas ratée sur les playoffs avec la fatigue qu'il y a maintenant.
C'est ça.
Bon, Yannis rentre bien à la maison. Hein.
Merci beaucoup Gilbert, j'embrasse Daniel parce que je n'ai jamais passé avec Daniel. Daniel, t'es le goat, reste comme t'es, la vie de la mère.
Merci Yannis, merci beaucoup, je t'embrasse.
Salut Yannis. Bon Thomas, t'es confiant toi? Ou t'es comme Yannis un peu en flip là?
Nice, déjà, c'est une équipe qui réussit pas forcément à Saint-Etienne sur ces dernières saisons. On sort souvent avec des valises. Et bon, quand je vois le match de ce soir, on est tombé bien bas. Quand je me dis que Nice joue la Coupe d'Europe 9 mois auparavant, bah.
Enfin, ils jouent la Coupe d'Europe. Façon de parler, parce que.
Ils étaient sur le terrain.
Vu les résultats qu'ils ont.
Après, jouer, c'est un bien gros mot. Coupe d'Europe et Nice, jouer. Ouais. Voilà.
Mais que dire de Saint-Etienne, quand on voit le recrutement, le cirque qu'il y a eu cet été autour de Stassin, moi je l'aurais emmené en limousine au Paris FC. Enfin, quand on voit la saison.
Stassin, c'était quoi le prix demandé? 20?
Au début, il devait être vendu pour 22 plus, et après ils en ont eu 45 le dernier jour.
Oh là là.
Ça se tente, hein.
Ah bah tu peux toujours tenter. Quand tu survends le produit comme ça, après le produit tu te le tapes en boutique et il finit dans ta réserve.
Bah oui.
Parce que là, même à la fin de cette année-là, je sais pas si tu veux le vendre à ce prix-là. Hein.
Bah pas du tout.
Là, les yeux. Et c'est là quand même qu'on se rend compte parfois des effets hallucinants d'un mercato, de la surévaluation qu'il peut y avoir sur un joueur. Parce que là, on parle quand même de gens. Bah, qui sont censés avoir les yeux des experts, ils se sont dit bon ben bah, le mec il a fait une bonne saison parce qu'il avait fait une bonne saison, il faut dire la vérité.
Une bonne deuxième partie de saison. Plus que
ouais, mais on est d'accord que 40 c'est totalement abusé, exagéré, impensable. Mais à 15-20 on était pas loin de signer hein.
Ça pouvait être un échec moi ce que je te dis,
Non mais même pour un acheteur potentiel. Alors que là après cette année, bon, bah, si jamais ça doit être vendu, ce sera certainement moins.
T'as eu le même phénomène avec Hamlin.
Avec
Hamlin.
Hamlin, bien sûr.
Hamlin, t'as mis un prix. Alors moi, je pense c'est un très bon joueur, mais il a beaucoup surjoué, il a encore beaucoup touché le ballon, il essaie de faire la diff tout seul.
Hamlin, je veux quand même le voir. Je mets certainement pas la somme que demandait l'équitable. Lui aussi avait explosé à 40.
40.
Mais Hamlin, je continue de penser que c'est un gars à potentiel.
Mais tu regardes après toute la saison
dans
et tu te dis.
Dans les non-ventes, il y a eu Sinayoko aussi, qui est peut-être le meilleur des trois. Là,
pour le coup. Enfin, la meilleure saison. Parce que le meilleur intrinsèquement à voir, enfin, un très bon joueur. Mais comme Daniel, sur Hamlin, il y a sans doute à le remettre dans le bon sens.
Non, mais ce que ça dit, c'est que le club qui est vendeur, parce que les clubs sont tous vendeurs chez nous, pour les raisons qu'on sait, quand ils ont des belles opportunités, les ratez pas. Hein. Parce que tu peux vite perdre de la valeur en un an. Bah, il suffit de voir, là, par exemple, la chute de valeur d'un Hawaii. Tu perds vite ta valeur quand tu as une opportunité que vraiment tu as besoin d'oseille dans les caisses. Les 20 millions, mais tu ne peux pas les refuser.
Pour,
hein.
pour revenir à ça, je ne veux pas porter l'œil à Saint-Etienne, mais par rapport au scénario là, des deux matchs, mais je pense que quand même le facteur X de Nice et Hawaii, et j'y croyais pas forcément honnêtement quand il est arrivé, et de savoir qu'il était et suspendu ce soir et qu'il s'en sort entre guillemets sans lui,
et finalement
savoir
tous qu'il les va joueurs être qui potentiellement ne pouvaient pas jouer, on joue hein,
ouais, et ailleurs, en plus par ailleurs sur les internationaux, sur les sélectionnés à la Coupe du Monde, mais en plus là je suis vraiment spécifiquement sur Hawaii et encore par rapport à son attitude sur la finale de coupe et sur la fin de saison, et quand tu regardes le ratio quand il est pas là et quand il est là, ça va être un sacré défi pour une défense qui a été bonne d'ailleurs, le cardinal Bernauer.
J'adore la stat qui vient de tomber de nos amis d'Opta. Oui, c'est Opta, je me trompe pas, c'est bien Opta. Le match de ce soir, c'est la plus faible valeur d'XG dans des matchs complets Ligue 1 plus Ligue 2 cette saison.
Depuis Louis XVI.
Non, mais c'est limite, tu peux la faire. 0,41 Saint-Etienne-Nice. Le deuxième, vous le trouverez pas. 0,55 Grenoble-Bastia de septembre de cette saison.
C'est le premier de Ligue 1.
Mais c'est bon.
Non.
Il y a une grosse équipe ou pas?
Il concerne Gilbert.
Ouais, allez, Strasbourg.
Je ne souviens pas de ce match d'ailleurs.
Toulouse-Strasbourg, en décembre. Le 6 décembre.
Oula, celui-là, il devait faire mal.
Je ne souviens pas du score.
6 décembre. Bah, si il y a 0,56, il y a
peut-être 0-0.
Il y a 0-0. Bon, mais des fois, tu sais, t'as ça.
Ah, si le mec a mis une frappe du milieu de terrain, oui.
Gazidis, Thomas, t'as des nouvelles, toi?
Quel échec.
Ouais, parce que quand il est arrivé, c'était quand même plein d'espoir.
Tout le monde s'est vu trop beau sur leur
achat.
J'avais dit, attention. c'est pas parce qu'il y a de l'argent que ça va. Et au final, bah, je sais pas combien on a mis cet été sur le mercato, mais un sacré rond, un sacré paquet de pognon. Et quand tu dis que des clubs comme Rodez ou même le Restart travaillent beaucoup mieux sans avoir un rond, bah, c'est une bonne leçon d'humilité. Et honnêtement, aujourd'hui, bah, alors je veux pas dire que Nice mérite de rester en Ligue 1, mais Saint-Etienne ne mérite pas de rester en Ligue 1.
C'est un suicide au Gazidis.
Et Talenbaum, là, le proprio, il est revenu?
Bah, il vient au match de temps en temps, mais tu sais, c'est un peu comme à Bordeaux, quoi. Quand Lopez, il vient au match, tu sais que.
Très bon.
Il vient presque aussi souvent que Timothée Chalamet, quoi.
Bon. Talenbaum, quand il a repris le club, on dit ouais, il a des moyens, il est plus.
Alors moi, je
proprio d'équipe aux États-Unis, au Canada, Toronto.
Je ne vais pas vous donner un avis. Final, je vais juste répéter. Donc ça n'est pas mon avis. J'ai rencontré Gazidis il y a quelques mois maintenant, à un rendez-vous, et lui m'expliquait que de toute façon, ils étaient prêts à prendre leur temps, dans le sens où vu qu'il y a plus de droits télé, jouer Ligue 2, Ligue 1 pour l'instant, si t'es pas prêt. Ça rapporte pas grand chose. Donc, il n'envisageait pas ça comme une catastrophe si la montée ne se faisait pas dès cette année. Ce n'est pas mon avis. Hein. Vous avez le droit de considérer que c'est en revanche une catastrophe. Hein. C'était juste, je ne fais que répéter. Voilà. Et quant au monsieur qui est encore au-dessus, qui a l'oseille et qui a vraiment, vraiment du lourd oseille, quand Saint-Etienne sera en Ligue 1, peut-être que là, le portefeuille brillera un petit peu plus. Mais dans l'immédiat, vraiment, le message, c'était: On n'est pas pressé. Maintenant, j'imagine que les supporters, c'est pas tellement le message qui veulent entendre. D'ailleurs, attention au message. J'aimerais, on peut en finir sur ce match. On peut faire une petite transition.
Il y a quand même un Niçois qui nous attend, juste pour nous dire.
C'est dommage, j'avais une très belle transition.
Ah bah là, garde-la.
Non, mais garde le Niçois. Vas-y, enchaîne le Niçois. Qu'est-ce que je te dis?
Hugo, bonsoir.
Tu m'as plombé ma transition.
Salut.
Hugo, je précise que Paul Vexieux, notre réalisateur, a réalisé grâce à ChatGPT une magnifique studio l'after en Playmobil.
Oui. Alors, je ne sais pas, il m'a vu avec des lunettes alors que je les mettrais rarement. Donc, Paul, ouvre les yeux quand même.
Bon, Hugo, est-ce que du coup, tu te dis, on a fait le plus dur pour rester en Ligue 1 ou tu restes sur le match
suivant? Moi, je suis passé au prono RMC, là, je crois que c'était samedi. Ouais. Le truc, on m'avait dit, qu'est-ce que je voyais? J'avais dit match nul chez eux et on gagne chez nous. Et c'était un match nul. Je pense que honnêtement, si Puel et Montagny ils pouvaient skip ce match et passer directement à celui de vendredi, ils l'auraient fait. Parce qu'ils ont dit qu'ils calculaient pas, mais ils ont fait que ça. Et honnêtement, j'avais regardé un peu la saison de Saint-Etienne, du coup, parce que c'est un club historique. Et surtout, j'y suis avec des Stéphanois qui étaient pas contents, alors qu'ils étaient quand même dans le haut du. Enfin, ils ont fini troisième, quoi. Et je comprenais pas trop. Et en fait, en regardant un peu, et là ce soir, c'est criant. C'est nos homologues de Ligue 2, quoi. Que ça soit, je comprends exactement pourquoi les remontrances envers Stassin, Davitashvili, Cardona, malgré leurs stats et tout, parce que c'est dans des matchs couperés, des matchs importants.
Mais pas réaliste.
Pas là du tout.
Au passage, puisqu'on parlait de fatigue et de autant il y a des retours côté niçois, enfin le retour d'Ouahi, autant les deux qui sont sortis, les deux ailiers, Cardona, Davitashvili, enfin j'imagine c'est un peu de la précaution, mais t'as intérêt qu'ils soient là.
J'espère que c'est de la précaution, parce que s'il est devenu à manquer,
là t'es pas bien.
Non, ça va pas très bien.
Là c'est un queen.
Je l'ai pas trouvé incroyable, hein, perso, mais loin de là.
Non, mais Davitashvili, par exemple.
L'idée c'est pas de les trouver incroyables, c'est qu'est-ce que t'as d'autre, quoi.
Ouais, Davitashvili sur un bon jour et il est capable de faire un truc.
Je comprends totalement les Stéphanois quand ils étaient. Je comprenais pas. Quand tu regardes de loin, tu vois le classement, tu dis c'est pas si pire que ça. Ah si, en fait, si ce match ce soir il était catastrophique, sur les stats elles parlent pour lui. Ils ont fait j'ai entendu Montagnier, le Cardinal et Stassin dire on a fait un super match, enfin de truc.
Non mais alors, attends, je vais te dire parce que j'ai écouté Montagnier.
Les règles juste après les matchs, souvent il y a zéro lucidité.
Non mais même pas, c'est que c'est là où c'est un peu terrible et c'est un petit peu triste. C'est-à-dire que. Tu vois, t'es dans un barrage pour monter en Ligue 1. Quel que soit le contexte, la difficulté. Tu vois, moi, ce que j'ai pas senti ce soir, alors, sauf dans les tribunes, le public, guichet fermé, moi, j'ai pas senti une équipe de mort de faim de se dire, c'est là, on joue la vie du club, c'est parti. Moi, j'ai vu un match classique, tranquille, pépère, un peu de fatigue, certes. Et moi, ça m'a gêné. Et Montagnier, analyse du match, je viens de l'écouter, là, pendant une pub, je suis sorti, il était au micro du diffuseur chez Bein. Et il dit, oui, ça a été bien, hein, vous avez vu, le bloc était costaud, les gars ont fait les efforts, on peut pas dire, hein, devant les supporters, ils ont été à la hauteur en termes d'efforts, d'intensité. Ah oui, c'est marré, vous allez me dire, je sais, il n'y a pas eu de tir cadré. Oui, c'est sûr, Bah oui, il n'y a pas de tir cadré, mec, c'est du foot. T'es entraîneur, tu ne peux pas te contenter de ça, quoi.
Ce match, il était affligeant.
En tout cas, ça fait quand même une demi-heure qu'on vient de passer sur un match de merde totale. Donc, si on peut passer
Hugo, merci. Ah non,
juste penser à nos auditeurs.
Je pense que ça fait un match comme ça. Il n'y en a pas beaucoup.
Ah, mais match aussi bidon, non?
Salut Hugo, à bientôt.
Salut Hugo.
Ciao.
Thomas, bah merci également d'être passé.
Salut Thomas.
De rien. Et on va, nous, dans quelques instants, partir en Angleterre dans un petit quart d'heure.
La transition, donc on s'en fout. On la met dans la poubelle au fond du jardin.
On va faire comme Hugo, on va faire comme les entraîneurs.
Bah, j'attends la fin après le
retour. Skip the match.
Ah, donc tu fais la transition après.
Bah oui, s'il y a la pub, il y a la pub.
Allez, on se retrouve donc dans un instant. On va parler de Genesio, des listes pour la Coupe du Monde et de la finale de la Ligue des Champions, évidemment, car nous sommes à 4 jours de PSG Arsenal samedi à 18h. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h16. Florent Gautreux et Daniel Riolo sont là. Avant de parler d'Arsenal et de Paris à 4 jours de la finale, l'actu du jour avec donc Daniel, ta fameuse transition.
Non, oui, rapidement.
Avec impatience.
Parce que je parlais, oui, de Saint-Etienne et de la communication qui était faite sur ce qu'ils envisageaient et ce que les supporters n'ont pas forcément envie d'entendre. Ça m'a fait penser, avec le recul, hier on a reçu Pierre Sage et Jean-Louis Leca était dans l'après-midi chez Jérôme. J'ai trouvé, mine de rien, que deux jours après une finale de Coupe de France, ok, au bout d'un moment, tu fais la fête, elle est finie, et t'as le droit d'être lucide et sincère, c'est ce qu'on préfère, nous, la sincérité. Néanmoins, je les ai quand même trouvés un peu down, les deux, quoi. Entre Pierre Sage qui dit, bon, bah, peut-être que c'est pas verrouillé 100%, Jean-Louis Leca, on fera pas mieux l'année prochaine. Cette idée qui est, ok, lucide, accepter comme une fatalité que ouais, la Ligue des Champions, de toute façon on fera rien, et puis le match par semaine, c'est dur à gérer, c'est cela. Moi, je sais pas si c'est le moment, quoi, tenir ce genre de propos. Sur le coup, ça m'a pas complètement choqué, mais en rentrant après, je me suis dit, donc si je suis président du club ou Gourian, on vient de faire un truc de fou, tout ça, annoncer on fera pas mieux l'année prochaine, l'entraîneur il est pas sûr de rester, le directeur sportif on va pas faire de transfert, on fera pas de folie, ne vous attendez pas à une bonne saison. Waouh. Un petit peu positif, ouais. Quoi. Non, ça vous a pas si, perturbé alors, un peu alors ça,
moi,
quand même.
Moi, ça, j'ai écouté avec attention Pierre Sage avec vous, et ça m'a pas été trop étonné, mais quand même, j'ai eu un message d'un follower ce matin qui m'a dit, bon, désolé Flo, je suis obligé de m'excuser. Pourquoi? Je vous raconte l'histoire. J'avais dit que Pierre Sage, à mon avis, il serait tout à fait légitime de dire je pars parce que j'ai un gros club, j'ai un machin. Le mec m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise de déstabilisation? Tu sais, je m'étais pris une petite vague. Et
oui,
je lui avais dit,
parlé ici,
ouais, je lui avais dit, écoute, il n'y a aucune entreprise de déstabilisation. Je trouve légitime qu'un coach qui a réussi puisse répondre aux sirènes d'un gros club. Voilà, gestion de carrière. Et là, il me dit, bah, écoute, j'y croyais pas, mais en écoutant Pierre Sage, je suis
plus en plein. Il a acheté un petit froid quand même.
Absolument. Et pour dire ce que dit Daniel.
Moyennement apprécié.
Pour revenir sur la com, il a raison Daniel, il y a deux choses différentes. Je dirais que Pierre Sage est dans son rôle parce qu'il est entraîneur, il est salarié, il est entraîneur, et lui il a deux stratégies. Un, il met la pression sur son club pour avoir plus que ce qu'on veut lui promettre en termes de joueurs, pour continuer. Et deux, il y a sa stratégie personnelle qui est de dire, bah, les gars, s'il n'y a pas justement ce qu'il faut en termes d'effectifs, bah, moi, peut-être qu'effectivement, je pourrais aller avoir ailleurs. Après, en revanche, juste, à ce que t'as dit, c'est vrai que de l'autre partie du club, c'est-à-dire qui font le mercato, les recrues, c'est-à-dire, Jean-Louis, le cas, là, ça m'a mis un plus gros froid que Pierre Sage. Parce que lui, il sort déjà le parapluie en disant, on fera pas mieux. Pour les gens qui espèrent remplacer, parce qu'attention, si Pierre Sage est mécontent, c'est parce qu'ils ont déjà laissé partir des joueurs, dont Thomasson. Et le problème, c'est que si
l'entreprise
est engarrée, et sans doute.
Et malin que ça.
Et voilà, et Jean-Louis Leca.
Si on se limite à ça, c'est déjà bien.
Et Jean-Louis nous a dit que tout le monde était avant. Il a dit faut rentrer 40
000. Mais Jean-Louis Leca ne rassure pas les supporters.
Cette lucidité, encore une fois, on milite pour la sincérité à longueur d'année. C'est pas pour leur reprocher d'être sincères, évidemment que non. Mais je sais pas, cette lucidité, ce regard cru sur la réalité, ça te met une claque quand même. Ça, c'est un peu violent d'entendre ça. Quand tu te dis, bon, bah, ok, Lens, peut-être vous pourrez jouer encore le haut du classement. Ligue des Champions, évidemment, on sait bien que c'est un tour de piste et que si tu fais comme Brest, c'est la régalade, tu transmets des émotions quatre soirs parce que ça fait quatre matchs à domicile. C'est bien, ça fait du monde, c'est la fête et tout. Mais c'est vrai qu'à force de se répéter ça sans arrêt, on va peut-être se dire, mais c'est un peu de la fausse fête. Parce que cette fête du match de Ligue des Champions, les quatre soirées que tu fais chez toi, elle te plombe à côté ton championnat. Donc à un moment, on va peut-être en revenir de ce côté festif et des fameuses émotions dont parlait Kevin hier, parce que si c'est pour que ça te fasse du mal à côté, on va redevenir encore plus lucide que Jean-Louis Lecal a été hier. Bon, point. Autre débat, mine de rien, pour faire suite à l'interview de Sage, ça aussi, j'ai repensé aujourd'hui. L'arrivée de Cahuzac, ça peut pas passer comme ça, quoi.
C'est bien pour ça que je lui ai posé la question hier.
Il y a un truc quand même là.
Je pense qu'il a été diplomate.
Même s'il est malin, parce que lui, il te dit, oui, je le voulais déjà dans la saison.
Non, parce que si lui reste entraîneur numéro 1, si Alioui, parce que c'est exactement ce qu'il a dit. 1, Sage. 2, Alioui. Cahuzac, 3. Donc Cahuzac recule dans la hiérarchie par rapport à ce qu'il était, alors que tout le monde l'annonce futur 1. Nous, on n'a pas de billes pour dire ça. C'est le milieu qui dit que ce gars-là, son intelligence, ses capacités l'amèneront à être un numéro 1. Donc là, il fait un pas en arrière. Certes, il revient bosser avec son ami Jean-Louis Lecat dans un beau projet, machin. Mais pour être numéro 3, là, il y a un truc, qui m'échappe ou que je ne comprends pas. Donc, est-ce qu'on a dorénavant complètement admis qu'il allait partir, que Cahuzac allait prendre la place? Là, franchement, j'ai pas l'impression de faire Charles Coles.
En tout cas, si jamais il s'en va,
enquête, j'ai pas l'impression d'être dans le FBI. Là,
du coup, si jamais il s'en va, tu te dis quand même qu'il
y a Isaac qui est là.
Bah voilà.
Et
je vais aller plus loin. Je dis pas qu'ils l'ont fait, évidemment, dans cette idée-là. Mais si tu commences quand même avec Pierre Sage, et que pour X raisons, parce que tu ne sais pas, ça ne se termine pas avec Pierre Sage. Ils ont aussi quelque part des solutions en interne. Bon, après là, c'est du football fiction. Moi, ce qui est effectivement sur cette histoire de Lens, heureusement, je te dis qu'ils ont gagné la finale de la Coupe de France. Parce que dans la saison, bien sûr que la deuxième place, elle est dingue et qu'ils ont challengé un peu le PSG. Mais heureusement qu'il y a ce trophée, parce que pour le reste, comme dit Daniel, là derrière, t'as que les emmerdes qui arrivent. T'as tous les bons joueurs qui partent, t'as ton entraîneur qui se pose des questions, et t'as ton directeur sportif qui te dit on fera pas mieux et on va avoir du mal à trouver d'aussi bons joueurs.
Sur le discours un peu sur l'extincteur qui est sorti par Leica et Sage, nous on a quand même côtoyé plusieurs fois Joseph Ougourlian ces derniers mois. Je pense que lui, en chef d'entreprise tout à fait pragmatique et froid, il tient exactement le même discours. Je pense que là-dessus, il y a pas de.
Tu sais ce qui me gêne un petit peu dans le discours de Leca, je différencie les deux parce que Pierre Sage, oui, sans doute qu'il joue à la
fois. Déjà, ils avaient mal géré. Rappelle-toi la dernière Ligue des Champions avec l'explosion des salaires.
Ouais, parce qu'Ardopouille avait sorti le chéquier pour les.
Il avait valu un changement de dirigeant. Ardopouille sorti par Ougourlian.
Mais ce qui me gêne en fait, entre guillemets, bien sûr que, comme dit Daniel, il faut se dire le plus possible la vérité. Nous, on souhaite ça dans l'affaire. Mais j'ai presque envie de te dire que quand j'entendais Jean-Louis Lecard, j'avais l'impression qu'il te restituait ce qu'ils se disent effectivement en réunion de direction. Or, parfois, t'es pas obligé d'aller jusque-là. T'as quand même des supporters, non pas qu'il faille mentir aux supporters, mais t'as quand même tout un peuple et des supporters qui attendent et qui, à défaut d'avoir des bobards, ils veulent au moins des gens ambitieux, des gens qui te disent oui, on a des plans B, on a des plans pour remplacer les joueurs qui partent.
Quand on était à Lens et on est confiant. Il y a quelques mois et que Jean-Louis Lecat nous expliquait sa stratégie de recrutement, on sentait bien que déjà, fallait faire des coups pour pas cher et tout. Et il disait, c'est notre quotidien, c'est comme
et
ça.
Et c'est pourquoi Lecat, il est prudent, il a raison. C'est qu'il a fait des coups qui ont marché. Mais tu sais aussi que l'an prochain, si ça se trouve, sur les 5 coups qu'il va tenter, t'en as que 2 qui vont marcher versus cette année. Le coup Thauvin, le coup Saint-Maximin, le coup Hudson-Edouard. Effectivement, c'est du 100%. Donc voilà, écoute, c'est vrai qu'en tout cas, ça a mis un petit...
Ça a calmé un peu la fête. Pour finir très intéressante, qui est disponible en podcast, hein, si vous ne l'avez pas écouté hier, il y a un truc avec le recul aussi qui a creusé. Donc, Pierre Sage nous dit, pour faire Coupe d'Europe et championnat, il faut un effectif composé, il a dit, 3/4 de joueurs expérimentés, 1/4 de jeunes. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Lens. Voilà. Et du coup, ça m'a quand même fait écho, excusez-moi, avec Strasbourg, où en gros, t'as 4/4 de jeunes. Et il y a eu explosion au final. Bon, bref, voilà. Okay, écoutons.
Il a raison, mais surtout, c'est dans la description qu'il fait de ses besoins. Et c'est là où, effectivement, il y a de l'inquiétude. Et c'est pour ça que très tôt, nous, on a dit dans l'after ici qu'il y avait une possibilité que Sage parte. Non pas parce que ils répondent uniquement aux sirènes des gros clubs, mais aussi parce qu'ils regardent la situation de son propre club et de son effectif. Et c'est vrai que quand tu vois ça, quand tu vois qu'il ne pourra pas faire mieux la saison prochaine et que son effectif, pour l'instant, s'affaiblit, oui, si t'es très lucide du côté de l'entraîneur, oui, tu peux te dire c'est plus un risque de rester que de partir.
Et j'avais raté cette phrase de Pierre Sage concernant l'arrivée de Cahuzac, entre guillemets, si ça fonctionne entre nous.
Ah, il a ajouté ça ?
Oui, mais je m'en souvenais pas, mais on vient de me l'envoyer. J'embrasse Nicolas qui me l'envoie. Et il m'envoie même le verbatim. Ça m'a échappé ce morceau de phrase.
Ça fait beaucoup de petites choses, beaucoup de questions qui se posent.
On est d'accord, je pense.
Venons-en à Genesio. Parce que on apprend aujourd'hui en 4 RMC Sport. Donc vous savez que Marseille est sur Genesio, c'est le souhait numéro 1 du nouveau boss de l'OM. Mais Monaco s'intéresse aussi à Genesio et a contacté Genesio. Le Paris FC s'intéresse aussi à Genesio dans un cas très particulier. Si jamais Antoine Comboiré dit non, je ne veux pas continuer, dans ces cas-là, ils aimeraient Genesio, mais bon, Comboiré reste leur objectif numéro un, le fait que Antoine Comboiré reste au club. Enfin, c'est quand même dingue la trajectoire finalement de Bruno Genesio qui a été quand même critiqué un peu de partout à l'époque à Lyon, à Lille. Les résultats sont là malgré tout. Et là, tout à coup, il devient un des mecs les plus désirés de
la Ligue 1. Il a quand même fait son chemin depuis les critiques initiales qui datent d'il y a plus de 10 ans maintenant. Quand même. Le temps passe.
10 ans.
Oui. Genesio, il a 4 ans, il a plus de 3 ans à Lyon, il a 3 ans à Rennes, déjà 3 ans.
Ça date d'il y a 10 ans.
Pep, quand je vais le voir à Lyon, moi, pour Transversal, déjà cette émission, c'est largement Pep avant Covid, et qu'il me fait la remarque comme quoi au début ça l'a pas fait rire et qu'après ça l'a fait rire. On doit être 2017-2018, un truc comme ça, clairement. Donc on est là, oui. Il a montré beaucoup de choses. Il y avait eu les matchs à Lyon en Ligue des Champions, ceux contre City, mais c'est surtout après que je pense qu'il s'est véritablement affirmé, c'est en quittant l'OL. Et qu'aujourd'hui il soit demandé et qu'il donne l'image d'un entraîneur serein, capable de faire progresser un groupe, capable de gérer de la pression en tranquillité. Alors ok, j'entends ceux qui disent pour Marseille, on veut que ce soit plus sexy. Genesio dit comme ça, peut-être que ça fait pas sexy, mais ça fait pas sexy quoi? En image, mais il se trouve qu'aujourd'hui on est dans une époque de communication et que oui, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, pourquoi on va pas De Zerbi, ça faisait sexy, ça s'agite sur le banc, mais tout ça n'est pas gage de réussite ou de qualité. Je suis en train de dire les réflexions qu'on peut avoir en tête ou que certains ont sur l'image qu'ils se font dans l'entraîneur qu'ils veulent avoir sur leur banc. Et effectivement à Marseille, a priori, ça ne colle pas, même si après la déroute de cette année, peut-être que dans l'idée de faire un contraire, avoir du calme et de la sérénité et un gars avec de l'expérience comme lui, à Marseille, on peut se dire, on va tenter ça parce que l'agitation, on en a un petit peu marre. C'est peut-être le bon moment pour lui d'y aller. Et comme je sais personnellement que lui-même est motivé par le projet, parce que évidemment, il y a toujours l'idée que Marseille, ça ne se refuse pas et que c'est toujours une sacrée expérience de diriger. Il a eu Lyon. Il a Marseille maintenant. C'est comme quand Galtier vient au PSG. Et pourtant, le chemin était beaucoup plus compliqué pour lui de venir au PSG. Parce que lui, c'est un vrai Marseillais. Et le PSG, c'était pas du tout un club qui était logiquement destiné à être dirigé par lui. Mais il a pas refusé, parce que tu refuses pas d'entraîner le PSG ou l'OM. L'OL d'ailleurs.
Sur Genesio, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis Lyon, mais surtout aussi depuis son passage à Rennes. Pour rappel et par rapport à ce que tu disais, t'as des podiums, t'as 2 quatrièmes places avec Rennes, t'as des très bons matchs européens. Et il a encore montré cette année avec Lille ce qu'il avait déjà montré d'ailleurs à Rennes, c'est sa capacité, quel que soit le contexte, les blessures, les absences, les changements un petit peu de politique, même en termes de recrutement ou même d'intégration d'un Giroud, tu sais, dans ce vestiaire, qu'il est très bon dans cette gestion des vestiaires. Et il arrive à emmener tout le monde et à maintenir. Je dirais que le plus grand ennemi de Bruno Genesio, c'est lui-même. C'est que par moment, il craque, il en a marre, et au milieu de la deuxième saison ou à la fin de la deuxième, parfois, déjà, il commence à avoir le cerveau qui est comme une marmite. Mais
on n'en est pas là, on va lui laisser arriver déjà.
Non, mais c'est pas ça, mais tu es qu'à Marseille. À Marseille encore plus qu'ailleurs. Mais en dehors de ça.
Non, le calme, il ne durera qu'une saison à Marseille.
Ouais.
Mais le calme, ça ne durera que cette année parce que t'as pris tellement un ventilateur dans la gueule pendant un an que maintenant, il va y avoir du calme. Mais ça ne durera pas.
En dehors de ça, pourquoi je trouve que la hype Genesio, Renault, puisque c'était ça la question, est justifié, c'est que c'est pas un effet de mode. Je te l'ai dit, Genesio, c'est plusieurs années entre la deuxième, enfin plusieurs fois avec des clubs entre la deuxième et la quatrième place. C'est cette capacité à faire jouer ses équipes. On a vu des équipes plusieurs fois en se disant, tiens, à Rennes c'est bien, à Lille c'est bien,
ça veut jouer,
ça joue. Et tu remarques aussi le respect des autres entraîneurs, y compris étrangers, qui parlent de Genesio maintenant dans ceux qui sont venus en France.
Il a gagné,
c'est galon.
Donc après, on peut dire 10 ans plus tard qu'il est définitivement Pep Genesio.
Ah oui, il est Pep Genesio.
Voilà, ce sera le mot de la fin.
J'ajoute quand même que il y a des noms comme ça qui reviennent très régulièrement autour de l'OM, comme celui de Sergio Conceição. Bon, c'est un gars qui a de l'expérience. Il n'a pas tout fait bien de sa carrière, mais il a une vraie personnalité qui, comme ça, sur le papier, ça peut coller avec l'OM. Mais attention, maintenant, ce sont des entraîneurs qui demandent beaucoup d'argent. Et le marché du golf donne à ces gens-là des salaires de fou.
Du golf
et
les gars, pratique.
Oui, pas votre golf à vous deux, là.
Parce que bien, quand tu dis marché du golf...
Mais vous, forcément, vous, ça vous tape immédiatement à la tête, le golf. Ouais,
c'est qu'on a des prize money de dingue avec Gilbert. Même dans des compétitions amateurs, on a des prize money de fou.
Mais c'est aussi pour ça que Galtier a été écarté de la piste numéro 1.
Ouais, parce qu'il
salaire trop important.
Enfin, il a un an surtout de salaire, de contrat, je veux dire. Ouais.
Alors que moi, je pensais que le rêve de sa vie, il l'a 10 000 fois, c'était d'être sur le banc de l'OM.
Bon. Oui, je pense qu'avec ce qu'il a pris là sur sa carrière de coach, Christophe Galtier.
Ah bah visiblement, c'est pas assez.
S'il y avait des sacrifices à faire, il pourrait.
Bah visiblement, bon. C'est pas assez.
Julien Laurence, tout attend.
Sacrifice, le mot est un petit peu fort, non?
Oui, c'est pour ça que je l'ai employé.
Hein, voilà.
Dans un instant, Julien Laurence, J-4 avant PSG Arsenal, toutes les infos du jour.
On va reculer de 2 pubs.
Et puis tiens, cette question, tiens, on va se la poser avec Julien, on va faire un petit jeu ce soir. Quel joueur d'Arsenal vous metteriez titulaire à Paris? Réfléchissez pendant la pub.
J'en ai un.
On fait ça avec Julien dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là. Et Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Julien, évidemment, on est à 4 jours maintenant de la grande finale. Alors, petite stat intéressante, petite stat du jour d'Opta. Opta
pour la Ligue des Champions du PSG, ils sont plantés depuis le premier tour. Ils devaient perdre contre Chelsea, selon Opta.
Ouais.
Ils devaient évidemment perdre contre le Bayern.
Et bien là, ils donnent le PSG gagnant en finale à 56%.
Oh merde.
J'aurais pas dû dire ça.
Voilà.
Ah non, mais sans déconner, sur les deux tours, ils s'étaient plantés.
Alors vraisemblablement, ils prennent en considération, parce que ça s'est inversé. Au départ, ils donnaient Arsenal. Et là, ça s'est inversé, ils donnent Paris.
C'est pas bon, ça.
Et alors peut-être parce que y a quelques absences à Arsenal, Ben White, Timber incertain. Et puis
ils ont trouvé Marseille 5e avec un énorme coup de chatasse.
Il y a un autre élément qu'ils ont rentré dans leur ordi, c'est les grosses fêtes qu'ont fait les mecs d'Arsenal ces derniers jours.
Ça rentre dans leur ordi.
Apparemment, ça rentre dans leur ordi.
Et est-ce qu'ils ont rentré dans leur ordi la sortie de Mikel Arteta qui a valu l'agacement de Luis Enrique en conf et le karcher total sorti ce soir par Roy Keane. Roy Keane, il a flingué Arteta. Je vais laisser Julien raconter. Waouh! Ah, il a enlevé le crépi, là.
Alors vas-y, Julien.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait la grande soirée des joueurs d'Arsenal et des familles pour célébrer le titre dimanche soir après la victoire à Crystal Palace dans un restaurant du centre-ville de Londres. Et effectivement, il y a eu un petit discours de Mikel Arteta où notamment il dit on va gagner samedi, on sera champion d'Europe samedi soir. Et donc, c'est sorti ensuite. Quelqu'un a filmé, je sais pas qui a filmé et qui a fait fuiter, en gros, ou qui a mis sur les réseaux sociaux. Effectivement, Roy Keane et d'autres d'ailleurs, hein, pas que Roy Keane, mais.
Mais c'est des propos qui ne devaient pas sortir, Julien.
C'était une soirée privée, quoi, si tu veux. C'était après, je sais pas qui a filmé, je sais pas d'où ça vient, sincèrement, mais c'était une soirée privée.
Et la phrase prononcée, c'était samedi soir, on sera champion d'Europe.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais.
Ouais.
Bon. Et Roy Keane, il dit quoi? Il dit.
Attends, tu veux, je retrouve le passage, je te dis.
Dégonfle ton boulard, en gros, pour schématiser.
Si j'arrive à te retrouver le truc, je vais te le lire. Bon. C'est à la Roy Keane.
Bon, alors, les infos du jour. Côté parisien, d'abord, vous dire que Dembélé et Hakimi étaient à l'entraînement. Ils étaient attendus aujourd'hui, entraînement collectif, à huis clos, après un peu de repos. Donc, Dembélé touché au mollet, vraisemblablement, tout va bien. Et Hakimi qui se remet d'une lésion à la cuisse. Donc, voilà les infos côté PSG. Qu'est-ce que tu as côté Arsenal, Julien?
Pas beaucoup, enfin, pas plus d'infos que la semaine dernière, par exemple. sur Timber. Alors Merino est rentré, est revenu de blessure, il a joué 28 minutes je crois contre Crystal Palace dimanche. Pour être bon, il serait, de toute façon il aurait été sur le banc quoi qu'il arrive samedi. Ça te donne une autre option, j'imagine, depuis le banc, en sortie de banc si besoin, notamment si t'es mené au score et que tu peux le faire jouer en pointe avec quelqu'un d'autre. Ou c'est une bonne option. Je pense pas qu'il puisse tenir beaucoup plus qu'une demi-heure dans un match de cette intensité et de ce calibre là, mais au moins c'est bien d'avoir Merino de retour. Pour le poste derrière droit, c'est la grande interrogation. White, on est sûr qu'il sera pas là. Pour Timber, je trouve que c'est quand même très compliqué de, quand il a pas joué depuis 3 mois, de pouvoir même revenir. Alors titulaire, ça c'est impossible. En sortie de banc, c'est rare que tu changes les latéraux aussi, donc j'y crois pas trop non plus. Ça devrait donc être Mosquera qui devrait jouer au poste derrière droit. Lui, le défenseur central, jeune défenseur central espagnol qui est arrivé l'été dernier. Ou alors une surprise de la part d'Arteta, hein, Zubimendi arrière droit comme on l'a vu contre Crystal Palace dimanche en championnat, ou Rice qui l'a parfois fait plus tôt dans la saison. Moi, je pense que ce sera Mosquera. Pour le reste, il devrait pas. Enfin, pour le reste, il y a des questions à poser, des points d'interrogation. Forcément, est-ce que tu mets Gyökeres, est-ce que tu mets Havertz, est-ce que tu mets Eze à gauche, est-ce que tu mets Trossard, est-ce que tu mets Lewis Kelly ou est-ce que tu mets un Zubimendi par exemple dans le double pivot, Calafiore ou Incapié au poste d'arrière gauche. Donc voilà, il y a quelques points d'interrogation qui sont intéressants pour en débattre. Mais sinon, en termes d'incertitude, vraiment, à part Timber, c'est tout ce qu'il y a.
Attention, messieurs dames, petit jeu à faire à la maison. Avec vos amis, avec vos collègues de bureau. Quel joueur d'Arsenal vous mettez titulaire au PSG ? On le fait dans ce sens-là. Je vous propose de le faire dans ce sens-là.
Le gardien.
Le défenseur central.
Saliba à la place de Marquinhos.
Même les. Bon, je garde Pacho, mais.
Ah non, je garde Pacho.
Tu fais Saliba, Pacho ?
Saliba, Pacho.
Ah, oh, Gabriel.
Ah non, moi je suis Saliba, Pacho. Ah, bah, droite
Gabriel,
gauche.
Gabriel, Saliba, c'est
non,
trop.
Non, mais
fort.
Attends, il a que ce gauche, Gabriel.
Oui, oui, bien sûr.
Non, mais c'était pour respecter. Oui.
Non, tu as raison, il faut respecter l'ordre des.
Saliba, mais Pacho.
Honnêtement, la charnière centrale, pour moi, ça vaut celle du PSG. Pour moi, ça. En fait, non, puisque eux en ont deux et que nous, on est un petit peu plus faiblards, la charnière centrale d'Arsenal est meilleure que celle du PSG.
Je suis d'accord aussi.
Je suis d'accord. Mais si j'avais le choix total, je garderais Pacho et je mets Saliba avec Pacho.
Après, pour continuer ton jeu.
Raya à la place de Safonov.
Moi, j'adore, évidemment, j'adore.
Sur le gardien, vous êtes tous d'accord?
Oui, j'adore le milieu de terrain du PSG, mais c'est un milieu de terrain dans lequel Declan Rice pourrait jouer. Declan Rice, c'est un très bon joueur.
Fabien, ouais. Tout à fait.
De quoi ?
À la place de Fabien,
Ruiz.
Tu mets Vitinha, Neves, Rice.
Ouais, je suis d'accord.
Peu importe comment tu le constituerais, je veux dire, c'est des joueurs, ça peut jouer, quoi. Voilà, on n'est pas dans des écarts de niveau.
Par contre, devant,
oui, tu me
demandes,
je garde Vitinha,
PSG.
Neves, je les préfère.
Ah, devant, je garde PSG, moi.
100%. Devant, oui.
Ah bon, même si c'est très fort, hein, devant, mais oui. Si tu me demandes vraiment, j'en ai quatre.
Maintenant, Saka en top forme, il peut jouer sur son côté.
Moi, j'aime bien un gaucher et
Saka.
Droit.
Saka, donc, il peut jouer avec Dembélé, avec Dembélé et Gvara.
Ah non, mais ouais, Saka, il faut que tu nous donnes quelques arguments, Julien.
Ah non, mais pour moi, enfin, on a eu le débat en Angleterre il y a pas si longtemps. Pour moi, c'est classe mondiale, Saka. Alors que tu le places derrière Olise et Lamine à son poste, je veux bien le comprendre. Il y a pas de problème. La saison d'Olise, elle est incroyable. Mais si tu regardes par exemple quelques stats en Ligue des Champions notamment entre Olise et Saka, donc il y en a un qui a joué 2 saisons en Ligue des Champions, l'autre 3 saisons. Donc c'est ça se voit un petit peu quand même. C'est quasiment la même chose en termes de but ou passe d'aise sur 90 minutes, ça se vaut quasiment entre Olise et Saka. Pour moi, Saka, c'est vraiment. Alors là, je sais qu'il a eu des blessures et que ça s'est peut-être un petit peu moins.
Comment il est là maintenant? Là, maintenant, au moment où on se parle, pour moi, tu le mets revenu complètement?
Non, il n'est pas à 100% Daniel encore. Moi, je trouve qu'il a encore un petit peu. Tu sens qu'il n'est pas vraiment à 100% physiquement. Il avait tellement joué sur les 5 saisons précédentes que là, le corps a un petit peu lâché cette saison et la saison dernière aussi. Avec des blessures, tu sais, où tu sais. Le genre de blessure à l'ischio qu'il a eu, par exemple, c'est typiquement la blessure de gars qui a tellement joué depuis tellement jeune qu'à un moment, le corps, il dit, bah, écoute, il faut que tu me fasses une petite pause là de 2-3 mois. Et après, ça repartira. Et malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là pour lui, la saison dernière et cette saison encore. Mais donc là, il n'est pas encore tout à fait à 100%. Ça se sent. Et puis, l'absence de Timber derrière lui et aussi l'impact aussi. Mais pour moi, il est classe mondiale.
Mais est-ce que la polémique montre autour des propos, pardonne-moi de revenir là-dessus, parce que il y a des gens quand même à Arsenal qui disent, ok, bon, il y a une fuite. C'est évidemment mauvais pour Arsenal. Ils ne voulaient pas entendre ça. On sera champion d'Europe et tout. D'ailleurs, pour que Luis Enrique en parle, c'est quand même costaud. Sauf que certains disent, alors c'est vrai que Luis Enrique, c'est devenu un évangile à lui tout seul maintenant. Mais quand lui, il avait dit, il n'y a pas meilleure équipe que nous en Europe, on n'avait pas fait tout un foin. Ouais, parce que la meilleure équipe que
parce
nous.
Qu'il était, parce qu'il était lors du titre.
Là, on ne trouve pas que c'est arrogant.
Non, mais c'est relativement factuel.
Moi, si je suis Arsenal, vu ce que ça a l'air de les perturber et que ça a l'air en Angleterre de. En gros, Arsenal communique sur le fait qu'ils sont contrariés, que l'extrait soit sorti, que c'est fuité. Moi, si j'étais eux, je me dirais, bah, regardez, l'autre, il dit que de toute façon.
Non, ça, d'accord.
On sera. Mais non, parce que dans sa réaction d'aujourd'hui, Luis Enrique a dit, on va leur montrer samedi soir qu'on nous bat pas comme ça et que. Voilà.
En fait, je pense que. T'as raison.
Mais
en contre-communication, t'as tout à fait raison. Arsenal aurait pu et peut encore faire ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la communication de Luis Enrique dans les très gros matchs contre les gros adversaires. Qui est très différente de celle qu'il emploie par exemple quand il joue un club de Ligue 1. Très récemment, ils ont joué Nantes en match en retard. Tu regardes les déclats de Luis Enrique, tu le reconnais pas. Il te fait tout un cinéma sur Nantes, sur le risque, sur le danger, sur la vigilance qu'il faut avoir vis-à-vis de Nantes. Et à l'inverse, comme le PSG a traditionnellement un souci psychologique lié à une forme de malédiction qui s'était eux-mêmes presque collée sur le dos, il a fait en sorte depuis le départ, dès qu'il y avait des matchs à enjeu entre guillemets qui pouvaient provoquer un certain stress, de dire mais il y a aucun stress, on est au-dessus. On est très fort, on est bien. Et au début, ça faisait sourire parce que c'était pas encore tout à fait le cas. Comme ils sont allés au bout en Ligue des Champions, évidemment, ce truc-là, il l'a gardé. Et là, encore récemment, il a dit effectivement ce que dit Daniel. Il a dit, on est la meilleure équipe d'Europe. Alors évidemment, comme tu dis, d'abord, ils le sont factuellement quand t'es champion d'Europe en titre. De fait, comme ils continuent à se qualifier, à battre Chelsea, à battre le Bayern, bon, tu peux pas vraiment dire l'inverse à l'heure actuelle. Alors qu'Arsenal n'a pas gagné ces galons-là pour pouvoir le dire. Et d'ailleurs, Arteta ne le fait pas en conf de presse assumée comme Luis Enrique, il le fait en comité privé et c'est une fuite qui sort. Donc la com de Luis Enrique, elle est très forte parce qu'elle était liée à l'histoire du PSG, mais elle s'appuie quand même surtout sur un titre de champion et sur des résultats récents, alors que pour Arteta, c'est un peu différent.
J'ai retrouvé Roy Keane, donc il dit arrogance, totale arrogance. Tu n'as encore pas gagné le trophée, et t'es déjà en train de parler comme si le travail était fait. C'est exactement le problème avec Arsenal. Trop d'émotions, trop de célébrations avant d'avoir fait quelque chose.
Alors, il faut également quand même préciser que cette génération de mecs de Manchester United, s'ils ont à disposition la possibilité d'envoyer une cartouche monumentale sur Arsenal, ils vont jamais s'en priver. Ils vont envoyer mais un tir direct pleine tête. Voilà. T'es d'accord, ici, Julien?
Ouais, tout à fait.
Mais tu sais, sur l'histoire d'Arteta, quelle est la différence entre les deux? Puisque Daniel a raison, les deux ont dit à peu près la même chose. C'est que si le PSG est battu, on ne dira pas « Ah, mais Luis Enrique, il a fait preuve d'arrogance, il avait dit qu'il était les meilleurs ». Ben non, parce qu'ils ont été globalement les meilleurs à ce moment-là, il a gagné en dernier, ça passe.
Puisque alors que si, est naturel chez lui.
En plus, si Arteta, lui, perd, on va lui ramener ces propos-là en disant « Non, l'histoire récente d'Arsenal aurait dû t'inciter à plus de prudence, tu ne pouvais pas te permettre de… » Donc, après, c'est surtout ça, c'est le risque. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que ce n'était pas public.
Après, si terrible? Parce que bon, Roy Keane, tu ne l'as pas lu, mais il agite. Moi, si je suis entraîneur du PSG, j'affiche ça dans le vestiaire. J'en fais des posters. Époque Bernard Tapie, Arthur Georges. On va leur marcher dessus. Bon, même ok, Claude très Bess. Bien. On est en 2026. Ouais. Est-ce que tu crois finale de Ligue des Champions, ça va te motiver un petit peu plus parce que, ah, putain, ils ont dit lors d'un dîner qu'ils allaient être champions d'Europe. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Évidemment qu'ils veulent être champions d'Europe.
Tu sais,
ça fait une histoire ce truc, sans déconner.
Allez, on s'arrête les gars.
Juste, ça n'est pas contre cette phrase en fait de Arteta. Elle n'est pas dommageable pour le match lui-même. Et tu as raison, Daniel. C'est terminé cette histoire de motivation entre les coachs. En revanche, elle est dommageable en Angleterre. Peut-être pour lui, pour l'image d'Arsenal et pour tous ceux qui n'aiment pas Arsenal, finalement, toi, qui vont s'en servir. C'est plutôt ça. C'est pas tant vis-à-vis de ton adversaire plutôt que de ton opinion publique.
Merci, Julien.
Merci, les gars.
Salut, Julien. Bonne soirée. Forcément, puisqu'il y aura d'autres.
Le Laurent Sico.
Demain, il y a finale de Conférence League aussi. Crystal Palace, Rayo Vallecano. N'oubliez pas que lundi prochain, nous sommes à Valenciennes. Florent Gautreau sera là, Daniel Riolo sera là. Donc, au cinéma pâté de Valenciennes, il reste quelques places. Donc, si vous voulez venir et que vous êtes dans le coin, c'est gratuit. Vous envoyez juste un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr, pour vous signaler public@rmc.fr. Dans un instant, les listes pour la Coupe du Monde. Et puis, on aura le gagnant de notre grosse opération de l'année pour les 20 ans de l'After, de la nouvelle voie de l'After. Il sera avec nous, Adem, qui a gagné tout à l'heure en début de soirée. C'était en direct sur YouTube. On se retrouve dans quelques secondes.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Laurent Gautreau et Daniel Riolo sont là. C'est l'année des 20 ans de l'After, on a organisé plein de choses, une tournée, une croisière, une canne, une Coupe du Monde.
Ils sont à faire les prochaines en fait.
Ah bah la prochaine c'est va falloir qu'on invente des trucs.
Les 21 ans de l'After.
Je suis en train de réfléchir. J'ai des idées.
Cette année là c'est.
J'ai des idées. Et parmi les grandes opérations de l'année, il y avait la nouvelle voix de l'After. Sorte de pour ceux qui ont raté ça. Si vous l'avez raté,
la radio YouTube, tu peux récupérer tous les épisodes comme ça. Voilà. Après, tu peux aller voir si tu es d'accord avec notre choix final qui est devant nous. Il est là le choix final.
L'idée étant de trouver la nouvelle voie de l'After.
J'ai une bonne tête de choix final.
2026, il y avait eu plus de 30 000 candidatures. Hein.
3 000
candidatures. Oh non, sûrement. Il est tard. 3 000 candidatures et il n'en reste qu'un. C'est Adem qui est là, qui a gagné tout à l'heure.
Bonsoir messieurs, très, très heureux d'être là.
Bravo, bon. Il y a son trophée en plus.
Ouais, magnifique le trophée, merci les gars.
Trophée sympa.
Dans la finale, je ne te dis même pas le thème qu'il est allé choisir. Genre Neymar, il mérite d'aller à la Coupe du Monde avec le Brésil.
C'est pas lui qui a choisi, on a imposé les thèmes de débat justement.
Ouais, donc il s'est bien battu dessus, il fait me faire chialer.
J'ai presque ramené Daniel à mon avis, presque. J'ai presque réussi. On y est loin, mais
on n'exagère pas non plus.
Presque. J'ai senti un petit moment de flottement.
Il y a eu battle avec les autres finalistes. Et il y a eu un débat à un moment sur Guardiola est-il le plus grand coach de l'histoire, c'est ça?
Ouais. Ça, c'était le premier débat.
Le premier de la deuxième.
Le premier, c'était ça.
Alors, Adem, je vais te dire. Moi, je te donne un truc. Là, t'aurais voulu plier le game.
Ouais.
Tu serais arrivé, t'aurais dit écoutez-moi, je joue le tout pour le tout. Je vous dis que Guardiola, c'est moins bien que Lucien Riquet et Deschamps et je vais le prouver à Daniel.
Mais c'est dans une semaine, ça? C'est pas maintenant, c'est dans une semaine. Dans une semaine, c'est prévu, t'inquiète pas.
D'accord.
S'il y a la troisième Ligue des Champions, c'est à la table.
Bon. Voilà, c'était stratégique, mais bon, t'as réussi quand même à gagner. Donc, tu seras dans l'équipe de l'After à partir de l'année prochaine. Tu feras des générations After.
Incroyable.
D'abord, des générations After, parce que c'est step by step hein, ici. Hein, tu vois, c'est pas genre Kimpembe, t'es pas titulaire d'équipe de France.
T'as compris. D'abord, t'arrives, tu apprends par cœur tous les résultats de la Ligue 1. Ouais, comme ça, tu te fais pas choper par Walid.
Non, tout le monde a ce tube.
Le premier club de Cardona, enfin, tous ces trucs-là, ça, c'est pour génération After. Et après, derrière, là, tu viens boxer dans l'After.
C'est quoi la question, les trois joueurs qui sont passés par ta ville?
Ouais, les trois joueurs par Villiers-le-Bel, c'est ça qui m'avait posé Walid. Ouais, c'est ça, mais je les avais trouvés, hein. Mais ça a été coupé au montage. Ça a été coupé.
C'est qui?
Les trois joueurs, Matistel, Dizazi et le dernier, Maignan. C'est les trois qui sont passés, ouais. Qui sont passés par l'équipe de France et Villiers-le-Bel.
On a des internationaux.
Bon, reste avec nous, j'ai deux, trois infos là à partager quand même, parce qu'il y a des trucs aujourd'hui qu'on n'a pas donné, notamment les quelques listes pour la Coupe du Monde.
Attends, juste Gilbert.
Et la liste du Maroc.
Juste sur Adem,
entre autres.
Il y a un point. Qu'il faut dire, c'est qu'il est arbitre
aussi, ouais, amateur.
Et que dans l'équipe de l'After, c'est très bien d'avoir aussi l'œil d'un arbitre.
Un mec qui connaît les règles.
Enfin, un mec qui connaît les règles. Ça y est, tout ça après les matchs. Les mains, les pas mains, on va pouvoir voir tout ça.
Voilà. Très bien.
Liste du Maroc pour la Coupe du Monde. Alors, les joueurs sont surprises. Hein, Bounou, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, tout ça. Et il y a quand même quelques nouveaux.
Brahim Diaz est là.
Ibrahim Diaz est là.
Bah oui, évidemment.
Eh, Ibrahim Diaz est là.
Évidemment.
Même si, il paraît que dans le groupe, certains lui en veulent encore.
Ah oui, c'est pour ça que je posais la question.
Voilà. El Aïnaoui est là. Ounaï est là. Amrabat, tout ça. Et alors, Issa Diop, néo-marocain. Issa Diop, qui est pris tout de suite, là, parce qu'il est en sélection depuis peu. Bouadi, qui a dit il y a trois jours. Je choisis le Maroc, pam, direct à la Coupe du Monde.
C'est logique. Alors, de toute façon, s'il l'a dit, c'est parce qu'il sait qu'il allait être rappelé.
Voilà.
Et je trouve que, et pour le Maroc, c'est génial. C'est un super milieu de terrain.
C'était pareil pour Diop.
J'ai l'impression que t'as une sorte de recrue de dernière minute là qui tombe du ciel. C'est comme quand les Français, ils apprennent qui Michel Olise, c'est qui lui? Ouais. Moi, je vais jouer pour la France. Bah, magnifique, ça viens, mon gars.
Bah, dernier cadeau des chances.
Et El Mourabet, le Strasbourgeois,
je pense que Bouadi, il est un peu plus marocain qu'Olysée est français, au fond. Hein, si on doit vraiment. Bon, écoute, profitons.
Voilà pour cette liste. Qu'est-ce que j'ai comme liste encore?
T'as pas signalé que Jessy Yacine, quand même, Gilbert. Ça me surprend de ta part.
Non, il y est pas.
C'est vrai?
Bah non.
Bah sinon, alors, on va commencer par ça. Hein.
Liste. Ouais. El Mourabet, je l'ai dit. Liste américaine. Timothy Weah, Ié, Balogun.
Le peu de joueurs américains qu'on connaît, ils y sont. Et comme on n'en connaît pas 26.
Et Giovanni Reina, toujours là. J'ai l'impression qu'il a fait 14 Coupes du Monde, lui, mais il est toujours là. Pour les américains.
Alexis Lalas.
De Pochettino, non.
Alexis Lalas.
Jessy Myassine, Ié, hein.
Habillés, Jasmine Assigne. C'est ce que je te dis, tu me dis non.
Et il ne suit plus tellement l'actualité de son club.
Murillo est dans la liste du Panama. Voilà.
Ah, tu vas nous faire tous les mecs qu'on connaît dans les sélections obscures.
Bah, j'ai le Ghana encore, si ça t'intéresse.
Chapeau Gilbert pour la sélection du Panama.
Ouais.
C'est moins obscur que le Panama quand même.
Ouais, le Ghana, ouais. Bah, Nouama, Jordan Ayew.
Encore
Jordan Ayew, toujours Ayew, là.
Ça c'est... Quel âge il a, genre
il n'y a pas André.
Il n'y a pas André.
Il a pas les 40, genre.
Jiku, qui désormais joue au Spartak Moscou. Opong, le Niçois, qui a joué ce soir. Donc,
j'aime bien faire
quelques joueurs qu'on connaît. Seydou de Rennes.
Plus aussi fort que ça l'a été quand même, le gamin.
Non, pas trop. Ouais. Le nouveau sélectionneur, c'est Kéroz, qui a.
Et du boulot.
Qui a pris la sélection il y a quelques temps. Bon, Adem, donc tu as été arbitre. Ouais. Tu es toujours arbitre?
Toujours. J'étais sur les terrains le dernier, en D1. En district.
District.
Ouais, D1 district. Mais j'ai arrêté de jouer il n'y a pas longtemps, il y a deux ans. Donc
Pas de problème, pas de soucis, globalement,
non,
sur la
non,
saison.
Non, pas de problème. Non, franchement, pas de problème.
On dit beaucoup, tu sais, qu'il y a de la violence, qu'il y a des pressions. Alors, des...
Ça oui, t'arrive de temps en temps, tu prends un chèque, t'es acheté ou pas?
Déjà, t'es arbitre. Quand t'es arbitre amateur, tu prends un chèque, Daniel, par
définition. Mais
oui, chaque équipe te paye.
Attention, maintenant, dans le 95, on est payé en virement, tous les 15 du mois. Ça, c'est bon à savoir.
Un petit coup de sifflet contre les enveloppes.
C'est combien un match, à peu près?
Un match en senior, c'est 80 euros.
Ah ouais, si tu fais 20 matchs dans le mois.
Est-ce que
t'as
déjà entendu derrière la main courante vendu?
Oh, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tu l'entends pas
le
tous les
week-ends. Le vendu d'arbitre, oui, tu l'entends.
C'est ce que t'entends.
Magnifique, le vendu d'arbitre.
Et pour avoir fait juge de touche récemment dans un match amateur.
Ça, c'est chef de garde.
Chef de garde.
Ah, je l'ai pas vu, celui-là.
Non, c'est l'arbitre de touche.
Moi, je fais la touche au niveau plus haut. Ça m'arrête de faire la touche.
T'as fait arbitre de touche et on t'a pas balancé un chef de garde.
Non, rien du tout.
C'est-à-dire, ça me fait penser que demain ou après-demain, il faut qu'on revienne, les gars.
Chef de garde.
Faut qu'on revienne sur le classement des arbitres de D1, parce qu'il y a eu des histoires un peu louches.
Hallucinant de constater que Benoît Millot, qui fait quand même partie des meilleurs arbitres de Ligue 1, est rétrogradé quand certains restent. Je ne nommerai pas Stéphanie Frappard pour ne pas l'enfoncer plus que
Julien Cazard est là. Alors là, attention, parce que j'ai un cadeau pour Julien. Oui.
Dès qu'il y a des cadeaux, moi, j'aime bien son sweat déjà.
Emric, qui est un auditeur de l'After en Chine, nous a envoyé des maillots. Ça incarne totalement les maillots footix que tu adores.
Ah bon?
Donc voilà, alors je te présente le maillot.
Messi.
Bien sûr. Donc sur le maillot, il y a tous les clubs, toutes les sélections, tous les logos.
Je sais.
Sur le même maillot.
C'est magnifique.
C'est le maillot footix.
J'en ai un de Ronaldo.
Bah, honnêtement, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Moi, je ne le porterai pas.
Ouais. Mais je peux mettre ça dans le placard.
Tu kiffes le joueur, tu mets.
Celui de Totti, il est super.
Et j'ai le même pour Cristiano.
Mais je l'ai, celui-là.
Mais t'as les maillots footix, toi?
J'ai un maillot de Totti, le même Totti.
Ah ouais? Bah Totti, bon, c'est pas très drôle, il a que. Ah non, Totti, il a que la club. C'est ça, la vanne. Donc t'as un maillot de la Roma.
Merci de suivre, Daniel. C'est la vanne, il y avait aussi. Ça marche avec Sicoran.
Ouais. Tiens, pour le placard.
Merci.
J'attends le maillot Gravelaine.
Il y a pas assez
d'étoiles. C'est un patchwork, ouais, c'est ça. Magnifique, là.
C'est un patchwork.
14, il faut. Donc merci, Emeric, pour ce cadeau.
Et Kamadi Awara est pas mal aussi.
Qui sera magnifié dans les nuits du Casar en Chine.
C'est le gagnant, lui?
Plus ou moins?
Oui, c'est Adem, c'est le gagnant.
Merci.
C'est la nouvelle voix de l'After, c'est toi?
C'est ça.
Il était temps de renouveler parce que là, ça commence à queen.
Tu sais ce que c'est? C'est une soirée, Adem.
Bien sûr. T'as compris le niveau? Il va falloir venir très très vite.
Il va falloir bosser les vannes.
Vous avez quoi au programme? Encore du Roland Garros?
Alors non. Tu sais quoi? On va, comme c'était hier le 26 mai, on va parler. Et là,
oui,
aujourd'hui.
26 mai?
Ah, c'est aujourd'hui.
26 mai.
Ah, c'est aujourd'hui, mais nous, il sera demain.
Il sera demain. 26 mai 93.
On va revenir sur toutes les plus belles soirées européennes de l'OM. Effectivement, pour les plus jeunes, ça ne veut rien dire. Mais pour les autres, ça va être un très beau moment.
Et sinon, j'essayais avec toi ce soir?
Oui.
Il t'a reparlé de sa soirée poker de dimanche soir?
Ah non,
visiblement pas. Ça a l'air, tu lui demanderas. Tu lui en parleras de ma part.
C'est marrant parce que tu parles pas souvent des soirées poker, sauf quand tu gagnes quand même.
Non,
c'est le principe de chaque mec qui joue au poker.
J'ai très peu joué cette année.
Ah bon? Il a été
bon, Adem, on se retrouve très vite. Encore bravo.
Salut Adem,
bravo. Et Lucas Arancini, c'est tout de suite. Et nous, demain soir, on est là dès 22h, juste après Génération After à 20h. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.